Bonjour, bonjour, bienvenue sur Grace Touch. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 5 de la deuxième saison. Et je suis NG, je suis avec
Coco. Bonjour, bonsoir tout le monde, ravi d'être avec vous encore aujourd'hui.
Donc Coco, quel est le thème de notre épisode?
Alors, vu la situation dans le monde, parce qu'il y a deux semaines, lorsque nous avons publié notre dernier épisode, je pense que la crise de santé que nous vivons actuellement n'était pas encore aussi avancée. Nous n'avions pas un message précis. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus ne pas commenter sur la situation présente et offrir des solutions bibliques. Donc, nous allons examiner comment aborder cette situation à la lumière de la parole de Dieu.
Merci. Donc, nous faisons référence à la pandémie actuelle, COVID-19, dans le coronavirus. Et ce que j'ai à cœur de partager avec vous aujourd'hui, c'est les Écritures dans Romains chapitre 8. Et aujourd'hui, je vais lire à partir du verset 31. Donc, Romains chapitre 8, à partir du verset 31. Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. » Verset 38, « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen.
Amen.
Donc, j'ai eu ce passage à cœur. Bien sûr, quand on le lit et quand on pense un peu au contexte, hein, quand il dit qu'il pourra nous condamner. Dieu est avec nous, s'il n'a pas épargné son Fils, ne nous donnera aussi-t-il pas tout avec Jésus, hein? Donc, dans ce contexte, gardons l'esprit, bien sûr, que l'Église était persécutée et les chrétiens étaient mis à mort à cause de leur foi. Mais la raison pour laquelle ce passage pèse sur mon cœur en regard de la crise que nous vivons et en regard de la manière dont c'est en train de changer nos vies, c'est à cause de la fin de ce passage, surtout à partir du verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Donc, ce n'est pas une surprise, hein, vous suivez tous l'actualité. Le virus actuel menace la santé de tout le monde à des proportions bibliques, hein, d'une manière vraiment globale. Et donc, malheureusement, il y a des personnes qui décèdent suite à cela. Je connais des personnes, des cousins, d'amis proches, etc., qui malheureusement sont décédés. Et nous devons tous faire attention, bien sûr, suivre les directives qui nous sont données de quarantaine et tout. Mais ce qui me frappe et ce qui m'encourage énormément dans ce verset, c'est le fait que Dieu nous rappelle que quel que soit ce qui se passe, et quel que soit ce à quoi nous faisons face, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour qui nous a manifesté en Jésus-Christ. Dans ce passage, Dieu me rappelle, et je pense nous rappelle, qu'il est fidèle. Il me rappelle que quelles que soient les circonstances humaines auxquelles nous avons à faire face, il est toujours là, lui, il n'est pas dépassé. L'amour qu'il a pour nous, qui est un amour tellement fort, tellement puissant, tellement fort que même la mort n'a pas pu le retenir. Cet amour qu'il a manifesté à travers Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi, quand je lis ce passage, ce que je reçois dans mon cœur, c'est que Dieu me dit, je suis là. Je ne vous ai pas oublié. Chaque jour, chaque seconde, à chaque moment, je suis toujours là. Et je voudrais relire juste quelques versets à cet effet. Quand il nous dit, rien ne nous séparera de l'amour de Christ, ne serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution. Chers frères et sœurs en Christ, si aujourd'hui vous êtes angoissés, si aujourd'hui vous êtes inquiets par rapport à que ce soit votre santé, la santé de vos proches, je voudrais juste, permettez-moi de dire que le Seigneur le voit, que Dieu est avec nous et que nous prions les uns pour les autres. Nous prions les uns pour les autres. Je sais qu'il y a des chaînes de prière en ce moment concernant ce qui se passe pour le personnel médical, pour les autorités et pour toutes les personnes qui sont affectées. Et je retourne à la parole. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, la profondeur, etc., aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc ma prière pour chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est que le Seigneur continue de fortifier notre cœur. C'est qu'il continue de fortifier notre foi, c'est qu'il continue de nous remplir de sagesse. Et Coco, c'est ce que moi j'ai à cœur de partager aujourd'hui. Vraiment juste un rappel de l'amour de Dieu pour nous, juste un rappel du fait qu'il est avec nous. Et juste un rappel du fait que, encore une fois, il nous promet sa victoire. Donc, lui, il sait à quoi cela ressemble. Et moi, je ne fais que partager, transmettre, répéter sa parole. Et donc, je prie encore une fois que nous restions tous encouragés, alors qu'on continue à aller de l'avant et chaque jour de prendre les précautions nécessaires et de faire les tâches que nous avons décidé d'accomplir aussi, hein. Coco, je te passe la parole.
Merci beaucoup, Angie. Merci pour ce partage et pour ce rappel utile. Il est si facile de perdre de vue la bonté de Dieu qui pourtant ne change pas, quelles que soient nos circonstances. Alors, nous avons fait un épisode en anglais la semaine dernière. Nous avons fait donc cet épisode sur la question où est Dieu lorsque ce genre de choses arrivent. À ce stade, aujourd'hui, lorsque nous préparions cet enregistrement, j'ai plutôt eu à cœur de regarder l'attitude que nous pouvons avoir dans le confinement. Je vais donc regarder l'histoire de Joseph en Égypte. C'est vrai que ce n'est pas la même chose. Nous sommes, il y a des similarités, hein, parce que le fait qu'il ait été enfermé en prison, d'une certaine manière, nous sommes enfermés, pas en prison, mais nous sommes restreints à nos maisons. Nous sommes séparés des gens que nous aimons. Qui ne vivent pas avec nous, qui sont à distance. Nous n'avons pas le droit de les toucher. Nous n'avons pas le droit de nous approcher de ces personnes. Nous n'avons que très peu de contact humain, à moins que nous vivions en communauté avec plein de gens. Mais c'est quand même rare. La plupart des gens vivent avec leurs familles proches. Ce sont généralement des petites communautés. En tout cas, si on respecte les règles, hein. Donc, les contacts humains sont réduits, le toucher est réduit. La communication humaine a changé. Dans certains pays, comme en Grande-Bretagne, où moi je vis, et c'est certainement la même chose pour toi, Angie, aux États-Unis, on n'a même pas le droit de prendre les transports en commun, à moins qu'on soit dans une profession essentielle, comme la police, les infirmiers, les docteurs, etc. Donc, toute notre référence par rapport à la manière dont nous vivons habituellement est transformée. Et en cela, notre situation n'est pas si différente de celle de Joseph en prison. Donc, lisons le passage et je pense que la Bible nous donnera des trésors comme d'habitude et je ferai juste un court commentaire. Donc, pour situer l'histoire, Joseph, ses frères étaient jaloux de lui, c'est dans le livre de la Genèse. Il le jette dans un puits, son frère supplie pour qu'on l'en sorte et on le vend en esclavage. Il se retrouve en Égypte. D'accord? Il se retrouve en Égypte, il travaille chez Potiphar, l'officier du pharaon. Tout ce qu'il fait lui réussit, etc. Son maître l'aime beaucoup. Il devient responsable de sa maison et Potiphar lui confie tous ses biens. On va donc commencer là, au verset 3 du chapitre 39. Donc, si vous voulez ouvrir vos Bibles, Genèse chapitre 39, verset 3. C'est une lecture assez longue, donc pour les personnes qui préfèrent écouter, asseyez-vous confortablement et écoutez. Je lis dans la version Second 21, Genèse 39, chapitre 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et lui dit, mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail, et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit et dit, couche avec moi. Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, regardez, il nous a amené un Hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé de grands cris. Quand il a entendu que je me mettais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et est sorti. Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Et elle lui tint alors ce discours. L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi. Comme je me suis mise à crier, il a laissé son habit à côté de moi et s'est enfui dehors. En entendant les affirmations de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph parce que l'Éternel était avec lui et il faisait réussir ce qu'il entreprenait. On est donc au chapitre 40 maintenant. Je ne vais pas tout lire, mais vous connaissez certainement l'histoire. Joseph est enfermé avec le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte, etc. Il rêve, Joseph les aide à trouver l'interprétation des rêves, hein, que je précise que c'est Dieu qui donne l'interprétation. Hein. Les rêves se réalisent selon l'interprétation, l'explication que Joseph a donnée à ces deux personnes. Le responsable des boissons à qui Joseph avait dit qu'il sortirait et qu'il serait rétabli dans sa fonction auprès du pharaon oublie Joseph. Donc, ce n'est pas une histoire de semaine là, c'est une longue histoire. Quand on arrive au chapitre 41, Genèse 41, on se rend compte qu'au bout de 2 ans, donc 2 ans après la libération du boulanger, non pardon, de 2 ans après la libération de l'échanson, du responsable des vins, le pharaon fait un rêve. Et on connaît tous ce rêve, les vaches maigres, les vaches belles et grosses, et les épis de maïs maigres, et les épis gros et pleins, etc., etc. Ce rêve perturbe Pharaon. Et allons donc au verset 9 du chapitre 41. Donc Genèse 41, à partir du verset 9. Alors le grand responsable des boissons prit la parole et dit au Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Le pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes ainsi que le chef des boulangers. Nous avons tous les deux fait un rêve au cours d'une même nuit et chacun de nous a reçu une explication en rapport avec le rêve qu'il avait fait. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, un esclave du chef des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves et il nous les a expliqués. tous ces produits conformément à l'explication qu'il nous avait donnée. Le pharaon m'a rétabli dans mes fonctions et a fait pendre le chef des boulangers. Le pharaon fit appeler Joseph. On s'empressa de le faire sortir de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le pharaon. Le pharaon dit à Joseph, « J'ai fait un rêve. Personne ne peut l'expliquer et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. » Joseph répondit au pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au pharaon. » Donc on continue, pharaon raconte l'histoire à Joseph, etc. etc. Et quand pharaon entend l'interprétation et que Joseph lui suggère de choisir un homme intelligent et sage pour le mettre à la tête de l'Égypte et lui suggère des solutions pour que la famine qui s'annonce ne puisse pas affecter l'Égypte, on voit l'issue de cette histoire. Donc, on est toujours au chapitre 41, mais on avance au verset 37. Ces paroles plurent au pharaon et à tous ses serviteurs. Le pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'Esprit de Dieu ?» Et le pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Le pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. » Le pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que le pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Il dit encore à Joseph, « C'est moi qui suis le pharaon, mais sans ton accord, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. » Si cette histoire vous fascine autant qu'elle me fascine, vous pouvez continuer à la lire. Alors, vous vous posez certainement la question, quel rapport avec le coronavirus et la situation actuelle? Si on se repenche sur cette histoire, il y a deux chapitres, quand j'ai commencé à lire, on voit Joseph qui est innocent, qui travaille chez son maître, qui est responsable, qui est intègre. Il se trouve qu'il est beau physiquement, mais bon, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas un défaut. Mais c'est cette qualité de Dieu que l'ennemi va utiliser pour essayer de piéger Joseph. Joseph garde son intégrité et paye le prix fort et se retrouve en prison. Alors, il y a quelque chose que l'on remarque dans la trajectoire de Joseph. Malgré le fait d'avoir été jeté dans un puits, ensuite vendu en esclavage, son attitude dans la difficulté est spectaculaire. Elle est irréprochable. Donc, quand il se retrouve chez Potiphar, il est loin de chez lui, il n'est pas en Israël, il est en Égypte. Toutes les manières des Égyptiens, leur tradition, leur religion, leurs attitudes, etc., leurs habitudes sont radicalement différentes de celles d'Israël. Mais malgré le fait qu'il se retrouve en terrain inconnu, Joseph se comporte toujours de manière intègre. Et cela lui sert. Ça lui apporte une bénédiction extraordinaire. Partout où il va, la faveur de Dieu est sur lui et il trouve faveur auprès des hommes. Ensuite, après avoir donc rejeté la femme de Potiphar, il se retrouve en prison et on se rend compte que c'est la même chose. Très rapidement, le chef des gardes le distingue des autres prisonniers et lui confie tous les autres prisonniers. Dieu est toujours avec lui, malgré le fait qu'il soit en prison et malgré cette difficulté dans laquelle il se trouve, la faveur de Dieu est sur lui. Donc Dieu adoucit une situation qui est pénible.
Amen.
Il adoucit une situation qui est pénible. Et la Bible dit, vous pouvez regarder maintenant que nous avons des moteurs de recherche, c'est facile à trouver. Hein. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et c'est quelque chose qu'on voit se manifester de manière très pratique dans la vie de Joseph. Il finit donc par, il interprète des rêves en prison. Il se distingue encore une fois. Les rêves se réalisent, les chansons sortent. Et quand Pharaon, 2 ans plus tard, rêve, ce monsieur se souvient donc de Joseph. Et c'est ainsi que Joseph, de fil en aiguille, finit par être libéré et devenir le second aux commandes de tout le pays d'Égypte. Donc si on regarde l'attitude de Joseph en prison, on se rend compte qu'il ne laisse jamais tous les malheurs qui lui sont arrivés changer son attitude. C'est cela le parallèle que j'aimerais souligner par rapport à notre situation actuelle. Bon nombre d'entre nous sont éloignés de leurs amis. Nos libertés nous ont été enlevées jusqu'à un certain point. Dieu merci, nous avons l'Internet, nous avons des réseaux sociaux, nous avons plein d'interfaces qui nous permettent de communiquer, en tout cas dans les pays qui ont accès à ces technologies. Ce n'est peut-être pas le cas partout dans le monde. Quoi qu'il en soit, quel que soit le niveau de technologie, d'avancée technologique du pays où nous nous trouvons, il n'en reste pas moins que notre mode de vie a changé, notre relation d'humain à humain a changé, nous ne pouvons plus nous toucher. Je ne sais pas comment c'est dans les pays francophones, mais en Angleterre, nous devons faire la queue devant le supermarché et être séparés par 2 mètres à l'extérieur avant d'entrer. Le nombre de personnes admises dans le supermarché est limité. Si on s'approche de plus de 2 mètres de quelqu'un, on reçoit une amende sur le champ. Il y a certains pays où on est arrêté. Donc, nos libertés nous ont été prises. Moi, j'aimais particulièrement aller prendre un café avec des amis chers, parler ensemble, prier ensemble, etc. Cette possibilité m'a été enlevée. La plupart des cafés ont fermé, d'ailleurs, dans la région de Londres où j'habite. Si je veux un café, je le fais moi-même, je le bois à la maison. C'est simple. Hein? Mes amis, je les vois à travers des interfaces qui permettent de communiquer, soit audio ou vidéo. Notre mode de vie a changé. Alors, quelle est l'attitude que nous allons maintenir dans cette prison? Premièrement, contrairement à Joseph qui a été enfermé alors qu'il n'avait rien fait, je ne dis pas que nous avons fait quelque chose, hein. Suivez mon raisonnement. Ce qui nous arrive affecte tout le monde. Ce n'est pas que nous sommes coupables, mais tout le monde est en prison. Joseph était enfermé alors que le reste du monde vivait sa vie. Il était enfermé injustement alors que le reste du monde vivait sa vie, y compris la femme de Potiphar qu'il avait accusée injustement. Mais autrement, on est enfermé, nos libertés sont restreintes. Quelle est l'attitude à préserver dans cette prison? Je vais suggérer quelques petites choses à ne pas faire, à essayer d'éviter. La première, ne pas blâmer Dieu. C'est très important. De même que Joseph n'a jamais dit à Dieu, comment tu as pu faire ça? Tu m'as donné ce rêve où mes frères se courbaient devant moi et mon père et ma mère. J'ai donné ce rêve à mes frères, ça a déclenché cette haine. J'ai fini esclave, dans un puits d'abord, puis esclave, puis maintenant je me retrouve en prison en Égypte. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Ne faisons pas ça. Joseph ne l'a pas fait, ne faisons pas ça. Ne blâmons pas Dieu. Dieu est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Tout don parfait et tout don excellent vient de Dieu. C'est écrit dans la parole. Il est un bon père qui ne nous donnera pas des serpents lorsque nous nous demandons des poissons. Il est celui qui revêt les lys des champs. Son nom est un de ses noms est Jéhovah Jiré, celui qui pourvoit à nos besoins. Dieu n'est pas un Dieu qui envoie des maladies à l'humanité. Je vois pas mal de posts sur certains médias sociaux où les gens disent oui, c'est parce qu'on a péché, on s'est détourné de Dieu que ces choses nous arrivent. Ce n'est pas faux que certaines choses arrivent dans le monde à cause du péché de l'humanité. Mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui envoie les malédictions. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui envoie les maladies. C'est très important. Si on relit les chapitres 28 et 29 du livre de Deutéronome dans l'Ancien Testament, on voit que si on choisit la vie et on choisit de marcher comme Dieu, une série de bénédictions nous arriveront. Si on choisit de désobéir à Dieu et de suivre des voies du péché, hein, de l'ennemi, hein, parce qu'il n'y a que Dieu et l'ennemi, je veux dire Satan, eh bien, il y a des conséquences qui viennent de ces choix que nous faisons. Mais attention, cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui envoie les punitions et les malédictions, non. Le même ennemi, le même Satan qui tente l'être humain à pécher est le même qui va donc se représenter devant Dieu comme il l'a fait pour Job et dire, regarde tes enfants, voilà ce qu'ils font, ils méritent donc maintenant que je leur inflige tel ou tel fléau. C'est la première des choses. Faisons attention à notre attitude. Dieu est bon, nous devons le louer, nous devons le remercier, nous devons veiller sur notre cœur, veiller à notre attitude de cœur, qu'elle reste humble et reconnaissante envers Dieu, car il est bon, il ne change pas. Si certaines et certains d'entre vous lisent dans l'Ancien Testament, Dieu en leur envoya la famine, Dieu en leur envoya la punition, nous pouvons en discuter. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions. J'ai une explication par rapport à ça. Libre à vous de demander au Saint-Esprit de Dieu de vous confirmer, parce que Dieu parle encore aujourd'hui, et de m'écrire si vous pensez autrement. Je serais ravie de commencer une discussion là-dessus. Mon avis, c'est que quand l'Ancien Testament, dans certaines versions, hein, parce que toutes les traductions ne disent pas la même chose, quand certaines traductions de l'Ancien Testament disent que Dieu a puni tel ou tel peuple, etc., etc., je pense que c'est une façon de voir les choses, une compréhension humaine. des hommes et des femmes de Dieu de l'époque qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit de la même façon dont le Saint-Esprit nous a été envoyé après l'ascension de Christ. Parfois, dans l'Ancien Testament, vous verrez que la parole dit dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu tomba sur lui et il s'est mis à prophétiser. Donc, ce sont des événements ponctuels. Ce sont des événements ponctuels. Dieu ne punit pas. Il ne punit pas. Ça, c'est ce que ma compréhension. C'est le même ennemi qu'on suit quand on pêche, qui va encore nous infliger des fléaux. Tout mal vient de l'ennemi. Satan est celui qui s'est rebellé contre Dieu. C'est lui qui a entraîné la mort, le péché et la mort, et tous les fléaux et les divisions, etc. Ça, c'est donc une chose. Faisons attention à ça. La deuxième, ne nous plaignons pas. Ne nous plaignons pas. Apportons plutôt nos besoins à Dieu dans la prière avec action de grâce et il nous bénira. La troisième, ce que j'ai dit brièvement un peu plus tôt dans ce podcast, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pourquoi le juste? Le juste est celui qui marche dans la justice qui nous a été acquise par Jésus, par sa mort et sa résurrection. Qu'est-ce que le juste? Le juste est celui qui cherche à faire la volonté de Dieu en toutes circonstances. Je ne parle pas de légalisme ici où on doit obéir à tout sans faire d'erreur. Nous sommes des êtres humains. Donc, par là, ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes faillibles et nous allons de gloire en gloire. Notre maturation spirituelle est progressive. Mais ce que Dieu regarde, c'est au cœur et à notre volonté de lui obéir. Et quand il nous révèle un point de chute, une erreur, un péché, qu'on dit « Seigneur, merci, j'ai compris, je vais m'en détourner, donne-moi la force, sanctifie-moi, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, rappelle-moi lorsque je suis sur le point de péché, etc. etc. » Vous comprenez ce que je veux dire? Veillons à ce que notre attitude face à ce fléau reste la même. Dieu est bon. Ne laissons pas notre bouche dire le contraire. Ne nous alignons pas avec les mensonges de l'ennemi qui veut que nous croyions que cette chose atroce qui arrive au monde vient de Dieu. Nous pouvons par contre, et je recommande fortement, et c'est ma dernière recommandation, louer Dieu, intercéder pour ceux qui sont malades, intercéder pour le corps médical, intercéder pour les chefs de gouvernement, intercéder pour les directeurs d'hôpitaux, pour toutes les personnes qui doivent faire des choix difficiles qui vont avoir pour conséquence la vie ou la mort de plusieurs. Voilà, c'est la fin de mon partage, Angie.
Et merci pour ces paroles encourageantes. Oui, effectivement, j'aimerais prier par rapport à tout ce qui se passe. Donc, prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Tu dis que le monde et la terre passera, mais ta parole demeure à jamais. Merci pour ton amour, Seigneur, pour nous. Et j'interromps la prière parce que ce passage pèse très, très fort sur mon cœur. Isaïe 54, c'est le verset 17. À partir du verset 16, en fait. « Voici, j'ai créé le forgeron qui souffle sur les braises et qui fabrique une arme, mais j'ai aussi créé le destructeur chargé de l'anéantir. Toute arme préparée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. » Seigneur, je te remercie de tout mon cœur pour ta parole et du fait que tu n'es jamais dépassé par aucune situation à laquelle nous faisons face. Seigneur, je te prie, comme a dit ma sœur, pour que tu bénisses tout le corps médical. En ce moment qui a tellement, tellement de travail, renouvelle ceux qui sont épuisés. Comme ma sœur a dit, effectivement, remplis de sagesse, Seigneur, tous les dirigeants, ceux qui ont à prendre des décisions pour notre sécurité, Seigneur, pour la gestion, Seigneur, de cette crise. Je te prie pour les autorités, Seigneur, dans le monde entier, afin que si tu les remplisses de sagesse, Seigneur, je prie pour aussi nos leaders spirituels. Parce qu'il y a tellement de besoins, tellement de détresse et tellement de choses auxquelles il faut s'adapter maintenant, y compris la manière de partager ta parole. Seigneur, donne-nous, remplis-nous de courage. Continue d'ouvrir nos yeux sur ton amour. Et merci pour l'exemple de la vie de Joseph et aide-nous à travers tout ce que nous vivons en ce moment à demeurer fidèles, non seulement à ta parole, mais à continuer aussi de manifester ton amour à tous ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus, Amen.
Amen. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter, même si c'est juste pour demander de la prière ou pour un encouragement. Nous sommes à votre disposition. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il donne, comme la prière, ma soeur, la sagesse à toutes les personnes susceptibles d'être utilisées par Dieu pour arrêter cette infection. Nous vous disons donc à dans 2 semaines pour le prochain épisode en français. Au revoir
et à très bientôt. Bye bye.